Bonjour, nous nous retrouvons en ce début d'année pour un nouveau cercle de lecture de Confluence. Et avec moi, pour vous en parler et pour vous souhaiter à tous une bonne année,
Françoise,
Martine,
Jean, Bernard.
Voilà, alors nous avons choisi en ce début d'année un livre de Toni Morrison qui s'appelle Beloved. En fait, ce qui avait présidé à notre choix, c'était le fait que l'année dernière, en 2019, Toni Morrison est morte. Et voilà, c'était un peu notre seule motivation. Peu d'entre nous avaient déjà lu des œuvres de cet auteur. Et nous n'avons pas regretté notre choix. Enfin, tout à l'heure, on vous fera l'écho de ce qui s'est dit au cercle de lecture de Confluence, auquel je vous rappelle que vous pouvez tous venir. Il y a des grands panneaux d'affichage devant le local de Confluence qui vous annonce le jour et l'heure. Donc, vous pouvez venir vous joindre au peloton. Alors, Toni Morrison, quelques mots. Elle est née en 1931 à Lorraine, dans l'Ohio. C'est intéressant qu'elle soit née dans l'Ohio parce que finalement l'Ohio ne fait pas partie des États confédérés. Il est limite avec, je crois, le Kentucky, la Caroline ou la Virginie, enfin bref, avec des États sudistes, mais lui se trouve quand même en bordure du lac Erie. Et donc, il semblerait que dans son enfance, en tout cas, elle n'a pas connu de problème de racisme. Ces problèmes de racisme et d'esclavage, elle les a découverts par la suite dans ses lectures. Enfin, Jean vous en dira un peu plus tout à l'heure.
Non, mais je peux dire tout de suite, j'ai relevé une phrase où elle dit « Je n'avais pas vraiment une claire conscience de la ségrégation et du racisme jusqu'à ce que je quitte Lorraine. »
Oui.
Donc c'est quand elle a quitté cette ville, sa ville natale, que... elle a pris conscience de ce que c'était que le racisme. Pardon.
Voilà. Non, alors je continue. Elle est née dans une famille ouvrière de 4 enfants. Elle commence à écrire et en 1977, Le Chant de Salomon, qui est un des romans qu'elle publie, rencontre un énorme succès aussi bien du public que de la critique. Il a d'ailleurs le Grand Prix de la critique. Et le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui, Beloved, publié en 1987, a obtenu le prix Pulitzer, qui est, semble-t-il, l'équivalent un peu de notre Goncourt pour la notoriété. En 1993, elle a obtenu le prix Nobel pour l'ensemble de son œuvre. Elle a enseigné à l'université de Princeton et elle a été nommée docteur honoris causa à la Sorbonne, Paris 7. Elle est morte donc l'année dernière à New York en 2019. Quelques-uns d'entre vous l'ont peut-être vu dans les émissions de Busnel à la Grande Librairie. Elle l'a interviewée plusieurs fois et c'est vrai que la dernière interview, on sentait qu'elle était très affaiblie. Elle avait sous assistance respiratoire.
Elle avait voilà. Pas loin de 90 ans quand même.
Elle avait, oui. Alors, quelques mots, parce que après tout, il faut que vous laisse le suspense pour le lire, sur Beloved. Ce texte est inspiré d'un fait divers de 1856, donc avant la guerre de sécession, donc en pleine période d'esclavage. Une femme, esclave, a tué un de ses enfants pour qu'il ne devienne pas esclave à son tour. Et c'est un peu le sujet de ce livre. L'héroïne principale, Seth, qui est une esclave fugitive, va au moment où elle est rattrapée par ses anciens maîtres, chercher à tuer tous ses enfants pour qu'ils ne subissent pas ce qu'elle a subi. Et elle va en tuer une. Une autre va être d'extrême justesse rattrapée au vol alors qu'elle l'a jetée contre un mur pour la fracasser par un des assistants de cette scène. Deux de ces garçons, elle a commencé à les tuer, mais elle n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Et elle va être emprisonnée, mais elle va échapper quand même au lynchage et à la pendaison. Et on va la retrouver quelques années plus tard, libérée de ses années de prison, vivant avec sa belle-mère, dont on vous parlera un peu tout à l'heure. Et ces aventures-là que raconte le livre avec des allers et retours dans le passé, ce qui, pour certains, n'a pas rendu la lecture facile. Voilà. Les circonstances historiques, Bernard,
Les circonstances historiques, oui, je vais juste préciser ce que tu as annoncé, Jeannette. L'essentiel du roman se passe 8 à 10 ans après la fin de la guerre de sécession, après 1865. Effectivement, l'Ohio, comme tu l'as dit, c'est un État du Nord, mais qui est en limite des États confédérés, donc où il y a une forte influence de ce qui s'est passé plus au Sud. Alors, on rappelle simplement que la guerre de sécession, même si l'origine était très économique, hein, il y avait les États du Nord qui étaient assez industrialisés et les États du Sud qui étaient restés très agricoles. Les États du Sud pratiquaient l'esclavage, les États du Nord beaucoup moins, et puis il y avait des mouvements contre l'esclavage.
Ou du moins une forme d'esclavage rémunéré dans les usines.
Oui, enfin, du moins, ça existait aussi en Angleterre au XIXe siècle, oui. On ne l'appelait pas l'esclavage. Disons que l'opposition emblématique, ça a été quand même la position sur l'esclavage. Et effectivement, cette guerre qui a été terrible, entre une partie avec presque autant d'États au nord qu'au sud, avec des forces à peu près égales, cette guerre a été longue, a été terrible, et comme la plupart des guerres civiles, horrible, quoi, avec des exactions de part et d'autre.
Et puis 5 ans, elle a duré 5 ans.
Et puis elle a duré 5 ans, elle a été extrêmement meurtrière. Évidemment, lorsque la guerre a cessé en 1865, même s'il y a eu un certain nombre de lois prises par les États fédérés, enfin les États du Nord, ceux qui avaient gagné la guerre pour abolir l'esclavage, sur le terrain, celui-ci n'a pas disparu du jour au lendemain, évidemment. Les esclaves se sont trouvés libres. On verra d'ailleurs, parmi les personnages du héros, du livre, je pense en particulier à Paul Day, que ça n'a pas été sans difficulté pour eux-mêmes, passer de la condition d'esclave à la condition d'homme ou de femme libre, leur a posé un certain nombre de difficultés, y compris d'identité, d'une identité même, mais pas seulement de conditions de vie. Donc nous sommes dans cette période-là, qui suit l'abolition de l'esclavage, où les esclaves s'interrogent sur leur ancien statut d'esclave, vivent plus ou moins bien leur nouveau statut d'homme ou de femme libre, et il y a alors un certain nombre de retours en arrière, tu l'as dit, mais j'y reviens, qui, eux, se passent nettement avant la guerre de sécession, puisque cet infanticide, qui est l'un des moteurs du livre, même s'il y en a bien d'autres, s'est passé quelques années avant la guerre de sécession. Voilà. Alors je m'arrête là sur le contexte historique. Jeannette, je te rends la parole.
Eh bien écoutez, je vous propose de faire une première petite pause musique. Alors je ne vous cache pas que bien sûr on vous a choisi surtout des Negro Spiritual, et le premier que nous allons écouter, c'est chanté par Louis Armstrong, se trouve dans le disque The Good Book et s'appelle Sometimes I Feel Like a Motherless Child. Et d'avance, je vous prie d'excuser ma prononciation anglaise.
Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes
I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long ways from home. A long ways from home. True believer, a long ways from home. A long ways from home.
Si loin de sa maison, tout seul loin de sa maison, c'est vraiment touchant. Jean, tu avais envie de nous parler un petit peu de ce titre, Beloved.
Oui, alors ce titre, il a cette particularité qu'il n'est pas traduit. D'habitude, les textes étrangers traduits en français ont traduit aussi le titre. Bon, là, il n'est pas traduit. Et c'est un mot qui a une énorme importance par rapport à toute l'histoire qui est racontée et qui est annoncé en exergue par une citation extraite de l'Épître aux Romains. « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. » Puisque « beloved », ça veut dire donc « bien-aimé ». Et avec cette annonce, on doit comprendre que il va falloir avoir un autre point de vue que celui qui était le point de vue sur les Noirs, la race inférieure, les questions qu'on se posait, est-ce que les Noirs sont vraiment des hommes, etc. Ce mot « beloved » va désigner, donc dans un premier temps, la petite fille qui a été donc tuée par sa mère, volontairement, pour qu'elle échappe à l'esclavage. Et puis, dans un deuxième temps, mais c'est là où le roman devient un peu mystérieux et pose des problèmes, il va être le nom d'un personnage qui apparaît un peu mystérieusement,
chapitre 5.
Sous l'aspect d'une jeune femme, et qui s'introduit donc dans la famille, et que la mère et la fille... Et sa fille, donc, vont prendre pour la réincarnation, en quelque sorte, de l'enfant assassiné.
Voilà donc. Ou la réincarnation, ou le fantôme. Alors, justement, là, dans le cercle de lecture, selon le degré de cartésianisme des lecteurs, il y a eu des discussions.
Le degré de cartésianisme, Jeannette, mais aussi disons, l'attention qu'on a portée à la lecture. Je fais mienne la très belle phrase que tu as dite au cercle de lecture, Jean. À la première lecture est déroutante, la deuxième est envoûtante. Il est rare que je relise un livre, et là je l'ai fait. Et je reconnais que j'ai été dérouté à la première lecture. Sinon envoûté, du moins ça m'a vraiment réconcilié avec le livre à l'issue de la seconde lecture. Alors déroutant pour beaucoup de raisons, si j'ai été dérouté, c'est sans doute à cause de la pluralité des personnages. J'avais un peu de mal à saisir qui était qui. Et il arrivait des personnages nouveaux très fréquemment. Et il y avait des retours en arrière. Il y a des personnages qu'on voyait jeunes et puis qui disparaissaient. D'autres qui avaient disparu depuis longtemps, comme la grand-mère, et qu'on voyait dans un chapitre suivant, jeunes et à une autre époque. Enfin, tout cela demandait une attention que j'ai sans doute pas prêtée suffisamment à la première lecture. Bon. Mais à la seconde lecture, je reconnais que c'est un livre passionnant, foisonnant, et qui sans doute a mérité les prix qu'il a reçus.
Alors c'est vrai que c'est un livre qui mérite une seconde lecture. Parce qu'à la seconde lecture, tout devient clair, finalement. Alors que, comme tu l'as dit, on peut être dérouté par le fait que ce soit pas un récit qui se déroule de façon linéaire, qu'on se pose la question, quelquefois, de l'identité de celui qui parle, Et puis, c'est comme aussi si Toni Morrison avait pris plaisir à varier les techniques d'écriture. Il y a du récit, il y a des monologues intérieurs, il y a l'introduction de poésie, de chansons. Enfin, il y a vraiment une très grande variété dans les techniques d'écriture. Et ça peut effectivement dérouter. Alors, on n'est pas là, bien sûr, pour dérouter les éventuels... Enfin, plutôt décourager les éventuels futurs lecteurs, au contraire. Mais... Parce que c'est vrai que dans un deuxième temps, moi j'ai trouvé que c'était effectivement envoûtant. Et je crois que c'est le mot envoûtant, enfin, ou envoûtement, ça doit caractériser ce livre. Puisque c'est un livre dans lequel les personnages croient au surnaturel, voilà, et essaient de transmettre cette croyance au surnaturel.
Mais enfin, on se fait la réflexion souvent à propos de livres comme ça qui, au premier abord, peuvent être un petit peu difficiles. Le fait qu'ils soient difficiles, souvent, est presque une garantie de richesse. Enfin, ça ne se livre pas d'un premier coup et c'est intéressant de le relire. Et Françoise, tu disais que tu pensais un petit peu à ce que nous avait dit Morandini, qui était l'auteur dont nous avons lu le livre la dernière fois et qu'on a eu la chance de que le cercle de lecture de Confluence a pu rencontrer en tête à tête, si j'ose dire, et qui lui disait que l'auteur...
C'est le lecteur contribue à faire le sens du livre. Parce que, oui, ça a été remarqué, les passages clés reste extrêmement allusif dans Beloved. Et si on passe à côté, on ne comprend pas. Par exemple, quand Denver dit à Seth « Mais tu n'as pas quatre pieds », si on ne le lit pas convenablement, on ne comprend pas ce qu'il veut lui dire et le reproche qu'il lui fait. Et justement, tout ce qui est propice à interprétation doit être remarqué. Mais après, à nous, libres d'interpréter.
Voilà, c'est ça. Et il y a comme ça dans le récit tout un tas de petites pierres d'attente, puisque c'est un peu le terme consacré pour désigner ce genre d'effet de style, qu'on ne remarque pas forcément à une première lecture et qui viennent expliquer, s'expliquent par la suite et qu'une deuxième lecture est lucide.
Par exemple, également, lorsqu'il Denver, c'est Paul D qui révèle à Seth que son mari l'a aperçu, le visage, maculé de beurre et de babeurre. Comment l'interpréter ? Il faut
l'interpréter, oui. Mais alors, tout à l'heure, Françoise, tu disais Seth, Denver, etc. Peut-être qu'il serait bon, Martine, que tu nous dises un peu qui sont ces personnages, parce que ça va un peu autrement vous noyer.
Oui, effectivement, Baby Sugg, Seth et Denver. Donc, je ne sais pas s'il faudra parler de Beloved également, vous m'aiderez. Mais voilà, ce sont trois femmes, trois générations. Et elles ont subi, effectivement, l'esclavagisme. Et du coup, Baby Sugg a beaucoup souffert. Donc, on la voit pendant le roman jeune. On comprend un petit peu les conditions dans lesquelles elle a été prise. Ouais. Sa vie a été menée par tous ces événements. Donc, elle n'a profité d'aucun de ses enfants. C'est un thème quand même que l'on retrouve avec ces trois générations. Aucun de ses enfants, on les lui a enlevés. Elle a
les a vendus, quoi. Ils ont été vendus.
Comme force de travail.
Oui, comme force de travail. Et effectivement, elle n'a que le dernier qu'elle a pu élever. Et effectivement, il est lui-même esclave, mais il aura la force de racheter sa mère à ses maîtres et de la rendre libre.
Et Baby Sugg, c'est la grand-mère. Donc. Alors justement, j'ai sous le nez là, le passage dans lequel elle fait allusion au fait que, évidemment, on les traitait un peu comme du bétail, destiné à produire d'autres esclaves, et en général, on ne leur laissait pas connaître leurs enfants. Regardez ce passage qui est abominable. Hal, c'est celui qui va épouser Seth, sa belle-fille, était le dernier de ses enfants. Et elle lui avait à peine jeté un coup d'œil lors de sa naissance, parce que cela ne valait pas la peine d'essayer d'apprendre un visage que de toute façon, on ne verrait jamais devenir adulte. À 7 reprises, elle s'y était fait prendre. Elle avait tenu un petit pied, inspecté les bouts de doigts potelés avec les siens, des doigts qu'elle n'avait jamais vus devenir des mains masculines ou féminines qu'une mère reconnaîtrait n'importe où.
C'est très beau.
Alors ensuite, il y a 7, donc.
7, donc, elle-même, donc on vient de le comprendre, qui est la belle-fille de Baby Sugg, la grand-mère. Donc, elle est elle-même esclave, mais elle est dans une phase de vie où elle peut fuir. Et elle a, en premier temps, pu faire partir ses 3 enfants vers cette grand-mère. Et elle-même organisera sa fuite. Et pendant cette fuite, naîtra sa fille, Denver, donc, qui est un personnage aussi important dans ce roman, puisque c'est une... donc, cette, on l'a dit les uns et les autres, on a compris qu'elle va vivre chez cette grand-mère, et jusqu'au moment de ce drame, qui est l'infanticide auprès de ses enfants, mais seulement une de ses filles est morte. Les autres ont été sauvés par des personnages, je ne sais pas si on en parlera.
Et qui se trouvaient autour. Sibylov, de parle-nous un petit peu de celle qui a été tuée.
Oui,
et qui Bilov. Réapparaît dans le roman.
Voilà, ça a été dit là précédemment. Bilov, elle vient effectivement hanter. Elle a été tuée, donc elle vient hanter cette maison. Donc il y a toute une part... effectivement, à ce sujet. Et puis, elle vient à un moment donné, après l'incarcération de sa mère et le retour, quand elle a été sauvée, enfin, elle est sortie de prison, Bilov revient comme une incarnation, vous avez déjà dit, un fantôme.
Oui, on ne sait pas trop si c'est une usurpatrice, un fantôme.
Ou peut-être un personnage réel.
Ou peut-être voilà, un personnage peut-être, réel.
Oui. En tout cas, le mystère subsiste. Oui.
Elle est accueillie par Denver, sa sœur, donc, et sa mère, qui la reconnaissent très, très rapidement et qui vont exercer envers elle une forme de maternage excessif, et ça va permettre à la narratrice, Toni Morrison, de nous embarquer dans beaucoup d'émotions autour de ce qui était perdu et ce qui était retrouvé, autour de toute la question des couleurs, la question des... puisqu'il y a cet aspect qui a manqué à Settle, la maman, puisqu'elle n'a pas élevé cette petite fille. Elle l'a assassinée, effectivement.
Alors, il y a quand même des blancs qui apparaissent dans cette histoire. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut nous en parler. Il y a 3 types de blancs, on pourrait dire. Les Baudouin, les Garner, enfin, je pense qu'ils sont un peu emblématiques. Et puis, Amy Denver.
Alors, tous les blancs ne sont pas riches.
Non.
Puisqu'il y a celle, la jeune Amy, blanche,
Amy Denver.
Une gamine, quasiment, qui sauve 7. À un moment où elle était quasiment mourante, quoi. Et ça, c'est un personnage intéressant, quoi.
Et qu'elle aide à accoucher.
Et qu'elle aide à accoucher de Denver.
Et Seth lui donnera la fille à sa petite fille, lui donnera en prénom le nom de famille de cette jeune blanche qu'il a secourue dans un moment critique.
Est-ce que ce n'est pas même le nom de la ville vers laquelle elle doit aller?
Ah, c'est même ça.
Chercher le velours.
Non, c'est à Boston. Elle va à Boston.
Oui, chercher le velours.
Chercher le velours rouge.
Ce velours rouge.
Mais alors après, il y a les Garner qui sont, si j'ose dire, entre les deux. C'est-à-dire, ce sont les propriétaires de ferme du Bon Abri dans laquelle ont travaillé. Et Baby Sugg, la grand-mère, et 7, et qui sont...
Où ils étaient esclaves.
Où ils étaient esclaves.
Oui, relativement bien traités.
Traités comme des hommes. Comment dire, 7 quand même va mettre un petit bémol à cette appréciation flatteuse en disant qu'elle a quand même eu l'impression, puisqu'elle a assisté jusqu'à la fin, nuit et jour, Madame Garner, qui est morte probablement d'un cancer, Et elle dit, si elle n'avait pas été aussi gentille avec moi, probablement que je ne me serais pas dévouée autant à son sujet. Voilà.
Oui. Mais alors ensuite, il y a de l'humanisme et de l'intérêt, peut-être dans peut-être. Ces bons traitements.
Voilà. Alors, par contre, il y a les Baudouin qui, eux, sont vraiment des blancs anti-esclavagistes, tout à fait. Ils vont le montrer. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut un peu détailler.
Les pratiques... Non, les personnages qui sont les plus esclavagistes, tu veux dire ?
Les moins esclavagistes.
Les Baudouin.
Oui.
Les Baudouin. Frères et sœurs.
Oui.
Ils vont procurer un logement à Seth lorsqu'elle retrouve, elle gagne sa liberté.
Pour l'aider à sortir de prison.
Voilà, ils lui éviteront d'être pendu.
Après qu'elle ait assassiné sa petite fille. Voilà. Et alors, il y a le représentant de l'esclavage pur et dur, abominable, celui qu'on appelle le maître d'école.
En plus, le maître d'école. Oui.
Et le beau-frère des Gardner, je crois, qui vient lorsque M. Gardner meurt.
Voilà.
Qui vient prendre la direction du bon abri.
Voilà. Alors, je crois qu'on ne peut pas ne pas parler de l'esclavage et de ce que subissaient les esclaves. Et à quoi Toni Morrison fait allusion dans son livre. Et je vous propose d'écouter un négro spirituel terrible chanté par Billie Holiday qui s'appelle Strange Fruits. Je vous en traduis les premières paroles. C'est « Les arbres du sud portent d'étranges fruits, du sang sur les feuilles, du sang sur les racines, parfum de magnolia frais et doux, et soudain, cette odeur de chair brûlée. Ces fruits seront cueillis par les corbeaux.
Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter.
Dans cette chanson chantée par Billie Holiday, elle parle de Strange Fruit accroché au peuplier, mais Toni Morrison, elle dit, les plus beaux sycomores du Sud portaient justement des pendus. C'est le sort des esclaves fugitifs. Et justement, Françoise, tu pourrais nous parler un petit peu de ce sort des esclaves. Quel livre d'une façon tout à fait discrète, quand même, Toni Morrison. Il n'y a pas de voyeurisme.
Moi, ce qui m'avait frappé la première fois que je l'avais lu, et j'en avais pris conscience, c'est que les femmes, les esclaves noires, ne pouvaient pas être mères. Et effectivement, Baby Sucks, donc
la grand-mère
n'a jamais connu sa mère parce que on la lui a enlevée à la naissance pour qu'elle retourne travailler dans les champs. Et sa fille, Seth, elle a gardé ses enfants avec elle, mais elle va connaître aussi l'esclavage sexuel en quelque sorte. Enfin, on faisait faire des enfants aux noirs pour reproduire la force de travail. Et lorsqu'elle a voulu, lorsqu'elle s'est échappée, elle a été violée d'une façon terrible. Et je vous lis un petit passage. Tout blanc avait le droit de se saisir de toute votre personne pour un oui ou pour un non. Pas seulement pour vous faire travailler, vous tuer ou vous mutiler, mais pour vous salir. Vous salir si gravement qu'il vous serait à jamais impossible de vous aimer. Voilà. Quant aux hommes, effectivement, lorsqu'ils cherchent à s'enfuir et qu'ils sont repris, ils sont soit pendus, soit brûlés vifs, ou alors on leur met un morse pour les humilier.
Comme aux chevaux.
Voilà, c'est ce qui est arrivé à Paul D. Et lorsqu'ils sont repris, on les encage. On les fait travailler la journée, on les met en cage la nuit pour éviter qu'ils ne s'échappent.
Et justement, Paul D, lui, je crois qu'il s'est échappé 5 fois et a été rattrapé 5 fois. Et ce terme de Paul D, c'est assez intéressant à voir aussi, parce que c'est également un peu le résultat de l'esclavage. On ne prend même pas la peine de leur donner un nom. Oui. Au bon abri, qui est pourtant ce qui se fait de mieux comme confort, si j'ose dire, des esclaves, il s'appelle Paul A, Paul B, Paul C, Paul D, et, ou encore numéro 6, par exemple. Voilà, donc c'est vraiment refuser le titre d'homme à ses esclaves.
Voilà, et disons, pour en contraste, on comprend mieux peut-être l'étonnement et la joie qu'ils ressentent. En fait, c'est surtout l'étonnement de leur condition d'homme
libre. Presque l'ahurissement.
Oui, un ahurissement d'homme libre. Je lis un petit passage où Paul D va profiter de sa liberté. Quand il descendait une rue animée, pleine de blancs qui ne demandaient pas d'explication sur sa présence, les coups d'œil qu'il s'attirait étaient dus à ses vêtements dégoûtants et à sa chevelure impardonnable. Pourtant, personne ne donnait l'alarme. Et puis vint le miracle. Planté sur un trottoir devant une rangée de maisons de briques, il entendit un homme blanc l'appeler « Hé, là-bas, venez par ici !» pour aider à décharger 2 mâles d'une voiture de poste. Après quoi, l'homme blanc lui donna une pièce de monnaie. Paul D se promena avec pendant des heures à se demander ce qu'il pouvait s'acheter et si quelqu'un accepterait de lui vendre quoi que ce soit. Enfin, il vit un marchand de légumes qui débitait sa marchandise sur un chariot. Paul D désigna du doigt une botte de navet. Le marchand les lui tendit, prit son unique pièce de monnaie et lui en rendit plusieurs autres. Ahuri, il recula. Regardant alentour, il vit que nul ne semblait intéressé par cette erreur, ni par sa personne, si bien qu'il partit tranquillement, mâchant joyeusement ses navets.
Et là, on est après la guerre de sécession, et il se trouve justement à Cincinnati, dans l'Ohio, qui est un des territoires du Nord.
Oui.
Bon, la ségrégation, ça va durer, hein, ça va durer, puisque on a oui. Martin Luther King... oui. À lutter contre elle.
Le Ku Klux Klan a été actif.
Mais quand même, Jean, tu voulais souligner.
Il y a cette violence absolument épouvantable, inimaginable. Et cette tentative de déshumanisation, là, puisque les gens n'ont même pas de nom propre, n'empêche pas qu'ils se comportent en être humain. Et cette part d'humanité dans le livre, je trouve que c'est ce qui fait sa grande richesse. Les personnages restent des êtres humains à part entière. Je peux citer un premier passage qui m'a beaucoup frappé, qui d'une certaine manière devrait réconcilier avec le livre, même si on le trouve difficile, compliqué, etc. Les trois personnages, donc Seth, sa fille Épaulder, se rendent à une sorte de foire. C'est un des moments où il y a une certaine donc liberté dans le livre. Et ils marchent, tous les trois, et il y a cette réflexion magnifique. Ils ne se tenaient pas par la main, mais leurs ombres, si. Et ce thème, donc, des ombres qui se tiennent par la main et qui font que, comment dire, au-delà des personnages réels, il y a quelque chose de plus fort qui montre que ce sont des êtres à part entière, en fait, des êtres humains à part entière. Un peu plus loin, il y a aussi la même réflexion. Tout le temps, les trois ombres qui jaillissaient de leurs pieds vers la gauche se tinrent par la main. Personne, à part Seth, ne le remarqua, et elle ne cessa de les contempler qu'après avoir décidé que c'était bon signe, une vie, peut-être. Et à la fin du chapitre, il y a encore cette idée. Sur le chemin du retour, quoique les précédents cette fois, les ombres de trois personnes se tenaient toujours par la main. Ce sont des personnes. Hein, mm-hmm. Et ces personnes, elles se soutiennent. Mm-hmm. Et c'est vraiment quelque chose de très fort, je trouve, dans ce livre.
Et on a dit que Babysug, donc, avait été esclave, avait connu un esclavage très très dur avant de venir au Bon Abri qui présentait une vie plus agréable, que Seth avait été esclave au Bon Abri et avait dû au fait de s'enfuir de subir des traitements abominables, mais Denver, elle, la troisième, n'a jamais été esclave. Et elle représente quelque chose.
Effectivement, elle représente la question... elle a elle-même subi le fait que peut-être elle n'était pas intelligente. Effectivement, c'était un bébé silencieux, un enfant silencieux, mais elle a eu la chance de pouvoir aller à l'école. Et effectivement, ça lui a permis de révéler cette humanité. Mais de par l'acte de sa mère, elle a à nouveau été bannie par la communauté. Et ce n'est que vers la fin du... Je l'ai dit tout à l'heure, elle a subi ce rôle inversé, maternant de sa maman et de sa sœur hypothétique, le personnage Beloved, de Beloved. Oui. Effectivement, quand elle doit les sauver, parce que sa mère part dans la folie, elles n'ont plus rien à manger, tout ça, elle arrive à se réintégrer la communauté, et on voit bien la force de ces groupes-là, tant sur le plan spirituel que sur le plan humain, comme ils peuvent à la fois être solidaires en rejet, mais aussi solidaires en accueil. Et cette réintégration la réhabilite, ça fait comme une émancipation, et moi je l'ai vécu comme une entrée dans le monde, puisqu'elle est quand même un personnage particulier qui est dans un monde très, très fermé, toute son enfance et adolescence jusqu'à jeune femme, où elle peut enfin s'émanciper avec justement peut-être ces personnages importants qui étaient cette dame qui donnait l'école aux enfants noirs, qui donnait la chance et qui les reconnaissait comme des êtres humains, comme vous venez de dire.
Cette dame, elle est l'inverse de l'horrible maître d'école esclavagiste.
Oui. Elle a cru en ses enfants, elle leur a donné du temps et et effectivement... c'est comme une renaissance, en fait, il me semble. À la fois le détachement de tout ce marasme psychologique, là, on ne sait pas trop, avec ces fantômes, les croyances. C'était comme un enfermement pour ce personnage-là.
Mais elle se détache de ça. Oui. Et tu voulais dire,
Françoise ? Oui, non, je voulais dire aussi que Denver change de position vis-à-vis de Paul D. Au début, elle le considère comme un intrus. Et à la fin, c'est elle qui le rencontrant, va lui dire tu peux venir voir maman à la maison, elle a besoin d'aide, il faut la secourir, il n'y a que toi qui peux le faire, viens à la maison pour sauver ma mère.
Et ce Paul D, moi j'avais dit qu'il avait une sorte de rôle d'exorciste. C'est celui qui va faire sortir les personnages de, justement comme tu dis, cet enfermement dans une sorte de folie. Et c'est ce qui donne donc à la fin du livre cette ouverture vers quelque chose de plus vivable,
de meilleur,
on peut dire.
De meilleur. D'ailleurs, il dit, et je trouve aussi que cette phrase est magnifique, il dit à Seth, toi et moi, on a eu plus d'hier que n'importe qui, on a besoin d'un peu de lendemain.
C'est très beau.
Et en fait, ils s'étaient rencontrés à la plantation du Bon Abri, Paul D., voyant arriver Seth, on était tombé amoureux comme tous les autres hommes esclaves jeunes,
privés de femmes.
Mais ils avaient attendu de voir quel est celui qu'elle choisirait. Et Seth avait choisi Hal, donc le fils de Baby Sug. Voilà. Et Paul D, libre, va essayer de retrouver et Seth et Baby Sug. C'est pour ça qu'il va avoir une idylle avec Seth. Alors, si vous voulez, je vous propose d'écouter un autre Negro Spiritual qui, cette fois, est chanté par Nina Simone et qui, justement, évoque cette sensation, tout d'un coup, de redécouvrir la liberté. « How it feels to be free ». J'espère que je connaîtrai ce bonheur d'être libre. J'espère que je pourrai être comme un oiseau dans le ciel.
How sweet it would be to find that I could fly. I'd soar to the sun and look down at the sea. Then I'd sing, 'cause I know how it feels to be free. Then I'd sing, 'cause I know I could break all the things that bind us apart. Wish you could know what it means to be me. And you'd see, you'd agree, everybody should be free. 'Cause if we ain't, we're murderous. Like a bird in the sky. How sweet it would be. I could find that I could fly.
La Simone qui s'accompagnait au piano et c'était au festival de jazz de Jean Lipin. On sent que ça fait du bien d'être libre. Alors Jean, tu avais été quand même assez impressionné par le fait que ce livre finalement renouait avec un thème qui parcourt la littérature depuis les origines, quasiment, le thème de l'infanticide, et l'aspect philosophique aussi de...
Oui, alors donc ce qui est au cœur du livre, c'est ce thème de l'infanticide, c'est-à-dire est-ce qu'une mère a le droit de Enfin, est-ce qu'on peut concevoir qu'une mère tue son propre enfant pour le bien de cet enfant ? Et elle essaie de se justifier en disant « Le meilleur d'elle, c'était ses enfants. Les Blancs pouvaient bien la salir, elle, mais pas ce qu'elle avait de meilleur, ce qu'elle avait de beau, de magique, la partie d'elle qui était propre. » Donc voilà comment elle essaie de justifier ce qu'elle appelle, ce qu'elle dit aussi. Elle dit aussi qu'elle voulait préserver ses enfants de ce qu'elle savait être horrible. Et c'est ce que ne comprendra pas, ce qui va heurter Paul D, qui ne comprend pas qu'elle essayait de combattre le pire par le mal. Et donc il y a ce problème, effectivement. Philosophique, métaphysique. Hein. Est-ce que, pour combattre le pire, est-ce qu'on peut commettre le mal ? Et est-ce que l'infanticide peut se justifier ? Elle... Alors, tout le livre essaie justement de raisonner à propos de ce problème et la réapparition donc, de cette... cette réincarnation de la fille qui a été assassinée, essaie de, comment dire, de rééquilibrer
et d'attirer notre attention.
Ce cas d'horrible, cette mort. Donc, il y a aussi d'autres, enfin, il y a tout au long du livre des réflexions justement sur ce problème-là. Hein. Jusqu'à quel point un nègre est-il censé tout accepter ? Et jusqu'à quel point, donc, l'horreur doit être admise, enfin. Et le livre, de ce point de vue-là, je trouve très, très puissant, très fort.
Est-ce que les victimes, d'une certaine manière, sont complices des bourreaux en acceptant d'être victimes, tu veux dire ?
Peut-être, oui. Hein. Mmh. Et justement, comment sortir de ce système, de ce système atroce, terrible ?
Mais souvent, dans le roman, on voit et travaille la question de la liberté individuelle, puisque, avec beaucoup de poésie, Toni Morrison nous embarque dans l'intériorisation des personnages par rapport aux sensations. Ça leur est propre, ça leur appartient, on ne pourra pas le leur enlever. Oui. C'est un petit peu, ça rejoint.
C'est bien d'évoquer ça, parce qu'il y a très souvent la présence de la nature, et d'une nature qui est apaisante, qui est belle, notamment au moment, justement, où il y a cette scène là, de l'accouchement près de la rivière. Il y a des phrases magnifiques justement sur la présence de cette nature. Hein. Sur une berge de rivière, dans la fraîcheur du soir d'été, deux femmes luttaient sous une pluie d'argent bleuté. Et
c'est on va assister ça, c'est une scène qui se passe pendant que la fuite de Seth, enceinte, et qui va tomber, Dieu merci, par hasard, sur Amy Denver, qui va l'aider à accoucher.
Voilà. Et il y a donc cette présence de la nature, là, très très forte. En cette nuit d'été, encerclée de fougères bleues, gestes accordés, elles agirent correctement bien. Donc il y a là un moment très très fort aussi. Et comme on l'a dit... Hein, ce livre est d'une humanité souvent bouleversante.
Une autre scène où la nature est très présente et où l'harmonie règne, c'est quand les trois femmes, Seth, Denver et Beloved, vont patiner sur un lac gelé.
Ah oui.
C'est surprenant d'ailleurs. Cette...
Et puis avec deux patins et demi, en quelque sorte. Parce que l'une peut avoir des patins et l'autre n'en a qu'un, mais elle se débrouille quand même. Mais en même temps, elle n'est pas manichéenne. Toni Morrison en a souligné qu'elle montre qu'il y a des blancs qui peuvent être bien. Et quant au noir, elle dit aussi, à un moment donné, la grand-mère, Baby Sug, quand elle a retrouvé sa belle-fille et ses petits-enfants, va, pour fêter ça, inviter toute la communauté noire à faire une grande fête. Et elle en rajoute et elle en rajoute. Et en fait... Eh bien, elle rend jaloux cette communauté. Ce qui fait que, au moment où le maître d'école, à la poursuite de son esclave fugitive, va arriver, il ne se passe pas ce qui se passait d'habitude, c'est-à-dire qu'on lance l'alerte. tous les noirs de la communauté ne disent rien, et ce qui fait que Seth est surprise et qu'elle va être amenée aux extrémités qu'on connaît. Donc c'est vraiment d'une richesse extraordinaire. On ne saurait trop vous conseiller de lire ce livre. Alors on arrive à la fin de l'émission, et peut-être que tu peux nous faire des annonces, Bernard, et en particulier des prochains livres qu'on a choisis.
Alors voilà, les quelques annonces concernant le cercle de lecture d'une part et Confluence d'autre part, mais... alors, le cercle de lecture, notre prochaine rencontre à la Petite Comédie sera le vendredi 28 février à 14h. Et nous parlerons du livre de Laurent Binet, HHHH, 4 fois H. Bon, pour l'instant, nous n'en disons pas plus.
Sur Heydrich à Prague.
On peut en dire deux mots.
Bon, si tu veux, Jean, vas-y.
Le livre raconte comment Heydrich, qui était le Reichsprotector à Prague, a été assassiné. Bon, c'est la trame. Et les 4 H, c'est le début de 4 mots allemands qui disent Heydrich et
le cerveau de Himmler.
D'accord. Alors, autre annonce concernant cette fois l'activité de Confluence, et pas seulement du cercle de lecture. Le mardi 11 février à 19h à la Petite Comédie, Confluence recevra Hubert Haddad.
Hubert Haddad, qui est déjà venu.
L'un des invités principaux de festivals précédents, à plusieurs reprises d'ailleurs, et qui reviendra à l'occasion de la sortie de son nouveau livre. Confluence recevra en résidence, avec la municipalité de Montauban, Antonin Crène, à deux périodes proches, en mars et avril prochain, puis en mai et juin prochain, en collaboration avec le pôle mémoire de Montauban. Voilà, Jeannette.
Et tu peux peut-être
annoncer le deuxième.
Ah oui,
le deuxième livre qui est prévu. Donc, mais je n'ai pas la date. Moi, il faut que tu la peut-être la retrouves. Enfin bref, il y aura ensuite donc une autre lecture qui est prévue.
Au mois de mars.
C'est un livre de l'auteur qui a eu le prix Nobel.
Prix Nobel cette année.
Oui, une polonaise qui s'appelle Olga Tokarczuk. Et le livre s'intitule « Dieu, les hommes et les anges ».
Et tu l'as lu, Jean, et tu l'as trouvé magnifique.
Alors moi, je l'ai lu aussi, et je l'ai trouvé très beau. On est dans un univers très différent, mais c'est aussi quelque chose de très, très intéressant.
Et très facile à lire.
Très facile à lire, oui. Ce cercle de lecture sera le jeudi 12 mars à 14h à la Petite Comédie.
Voilà, et bien nous allons vous quitter en vous re-souhaitant une bonne année. Et on vous quitte sur des notes plus gaies du Good Book avec Let My People Go.
Go down, Moses, way down in Egypt land.
Stand.
Let my people go.
So the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Way down in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go.
Let my people go.
Went to Egypt land.
Let my people go.